20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
Bonjour, il y a un dessin que j'aime beaucoup où une voix venant d'un immeuble dans une ville cernée par des vagues géantes dit « Soyez sûr de vous laver vos mains et tout ira bien ». La première vague est celle d'un virus nommé Covid et derrière elle, plus haute, celle de la récession. Et encore derrière et toujours plus haute, celle du changement climatique et de la disparition de la biodiversité. Comment est-il possible d'être heureux aujourd'hui ? Entre les inégalités qui brisent la vie, les menaces à venir, les craintes intimes et les peurs collectives, l'envie parfois que tout change et la difficulté à faire autrement. Où trouver de la force et de la joie ? Premier chapitre d'une série spéciale de 3 épisodes, on se demande aujourd'hui ce qu'il reste du bonheur. Salut tout le monde !
Salut Antoine !
Salut !
Première question que je voulais vous poser, si vous deviez définir le bonheur pour vous en un mot et en un seul, Sarah ?
Alors, je vais prendre un peu plus qu'un mot, mais ouais. Je dirais que c'est la fin de la charge mentale. Voilà.
Très bien, on va creuser tout ça. Salut Dalibor, je te présente parce que tu es nouveau autour de cette table et on est hyper content de t'accueillir.
Il est parfait.
Exactement, il est temps. Tu es écrivain et comme tu es écrivain, ça va être très simple pour toi de nous donner ton mot magique du bonheur.
L'innocence retrouvée.
Là, c'est un programme de travail que tu nous donnes, Dalibor. Salut Zineb, tu nous rejoins aussi autour de cette table, tu es enseignante de yoga, alors peut-être que tu as ce secret toi aussi du mot pour qualifier le bonheur.
Salut Antoine, alors je vais vous décevoir, mais pour moi le bonheur c'est une arnaque.
Oh là là.
Tout de suite, voilà, on va creuser ça. Bon, salut Sonia.
Salut Antoine.
Alors toi, tu n'es pas nouvelle, mais ça t'empêche pas quand même de nous donner ton mot du bonheur.
Bah moi aussi, je vais un peu tricher comme Sarah, et je pense que pour moi, le bonheur, c'est un bon dîner à une terrasse de café avec plein d'amis et plein de postillons.
Quelque chose qu'on ne fera pas en sortant de cet enregistrement. Salut Marlène.
Salut Antoine.
Alors et toi, quel est ton secret ?
Eh bien moi, le bonheur, je crois que c'est le temps. Voilà.
Eh bien, on va creuser tout ça parce qu'il y a un peu l'impression que le bonheur aujourd'hui est assez compliqué dans ce contexte que tu décrivais, Sonia, de repas et de postillons impossibles, celui du Covid-19.
Oui, tout à fait. Mais comme tu le disais en introduction, on est face à 3 crises. La fameuse crise sanitaire du Covid-19 qui change et qui bouleverse profondément notre quotidien. La crise économique qui bouleverse aussi le quotidien d'un certain nombre de nous. Et la crise climatique encore plus effrayante dont on voit les conséquences déjà très concrètes dans nos vies, en tout cas pour un certain nombre de personnes.
Ouais, et en fait, on parle même aujourd'hui d'anxiété écologique. Il y a beaucoup de psychologues qui ont signifié que c'était en fait un nouveau mal du siècle. C'est-à-dire que finalement, à toutes les anxiétés qui existent déjà s'ajoute celle du monde qu'on aura pour nous plus tard, du monde qu'on laissera, du monde qu'on donnera à nos enfants si on en fait. Et il y a même un philosophe qui s'appelle Glenn Albrecht qui en Australie a fait une étude en fait sur un village où il y a eu une activité minière à une époque, et en fait il a instauré le concept de solastalgia.
Qu'est-ce que c'est que ça?
En fait c'est finalement la nostalgie d'un environnement perdu et décimé. D'accord. Par l'activité industrielle quoi.
Oui, donc,
voilà, qui aurait touché en fait tous les habitants de ce territoire.
Donc ce nostalgia, ce mot qui fait peut-être écho au concept de nostalgie, à un moment donné, on voit bien qu'ils se ressemblent tous les deux.
Non mais en tout cas c'est très concret, il y a des études qui montrent par exemple qu'en Californie où la population craint un énorme tremblement de terre, le niveau moyen d'angoisse de la jeune génération serait 70% plus élevé que dans les années 50, vous imaginez ?
Et ce qui est fou quand même dans tout cet univers de souffrance actuelle et d'anxiété, c'est que malgré tout on nous demande à être heureux, on nous demande d'être heureux, on nous demande d'être résilient face à toute la souffrance actuelle. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant le premier confinement, il y avait des choses qui circulaient sur les réseaux sociaux qui nous disaient que si on n'avait pas eu le temps pendant ce premier confinement de développer nouvelles compétences, de développer un nouveau business, c'est pas qu'on manquait de temps, c'est qu'on manquait de volonté.
Mais oui, relisons Proust, voyons, et Proust en anglais, pourquoi pas même.
Dans notre maison de campagne.
Dans notre maison de campagne, au calme des résidences secondaires.
C'est ça.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Inès, parce que c'est tout tout ce discours aujourd'hui de la résilience. Il faut savoir être résilient.
Alors ça, on va s'arrêter là-dessus justement, Sarah. Résilience, qu'est-ce que ça veut dire
déjà ? À l'origine de l'origine, ce qu'on dit la résilience, c'est la résilience d'un matériau qui va résister en fait au choc et qui va reprendre sa structure initiale. Alors après, il va être retravaillé par d'autres, par la psychologie, par tout ce qui est le traumatisme, etc. Mais au départ, être résilient, ça veut dire qu'on te fait quelque chose, on te fait mal en fait, hein, il faut revenir à l'état d'origine, c'est
le
merveilleux.
Le fameux homme pâte à modeler.
Voilà, on revient à l'état d'avant.
C'est le merveilleux malheur de Boris Cyrulnik.
Ouais, alors, c'est
Boris Cyrulnik.
Ouais, bah, c'est très intéressant. Donc, c'est un neuropsychiatre, hein, ouais, à l'origine, Boris Cyrulnik, qui a travaillé justement sur le traumatisme. Ouais. Lui, il a perdu, enfin voilà, c'était un enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale, il a perdu ses parents. Et du coup, dans son livre, ce qu'il explique au début, c'est comment finalement on peut dépasser le traumatisme, donc c'est-à-dire finalement réussir à intégrer le traumatisme pour continuer à vivre. Et en fait, toute cette idée de la résilience qu'il avait récupérée au départ de la physique a été finalement récupérée également pour dire que en fait, tout le monde a en lui la ressource pour dépasser et même pour effacer les traumatismes, quand finalement la résilience n'était plutôt que l'idée d'intégrer ce qu'on a vécu.
On doit tous ressembler à des toons. Vous savez, les toons tombent tout au fond de l'abîme et ils sont en mille morceaux dispersés par la dynamite. C'est Bip Bip le coyote. Mais deux secondes plus tard, il est là, la langue pendante, à courir derrière l'autruche.
C'est ça. Il reprend sa forme humaine. Et on voit bien aussi, à propos de cette injonction, de ce qui ne nous tue pas doit nous rendre plus forts. On a beaucoup entendu ça ces derniers temps.
Je crois que c'est Jennifer qui en a parlé dans une de ses chansons.
Oui, absolument. Ouais.
Ah ben voilà.
Ben c'est aussi Angèle qui en a parlé dans une de ses chansons.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit alors ?
Elle nous dit « Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. » D'un ton ironique, hein, dans Tout oublié. Mais qui nous dit « Voilà, on vit dans une société où on nous oblige à être heureux. Et si on l'est pas, bah, c'est qu'on est un peu bizarre en fait, finalement. »
Ouais, mais alors chez Angèle, c'est ironique, mais malheureusement, chez d'autres, ça l'est pas. Donc cette phrase qui vient de Nietzsche, quand même, rappelons-le, a été prononcée également par François Fillon lors de son discours de 2017, alors que tout le monde lui demandait de rendre l'argent. Il hurle, il harangue la foule
en disant... Hein,
et les costumes, mes amis, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et c'est aussi repris par Johnny Hallyday, mais aussi par Kanye West et Daft Punk dans une espèce de clip futuriste et transhumaniste, dans une espèce aussi d'environnement orientaliste, on sait pas trop d'où c'est, à base de mecs tout branchés d'électrodes dans un scanner géant, donc pour nous montrer que vraiment devenir plus fort, c'est devenir un homme-robot bien plus intéressant que le pauvre petit être sensible qu'il était au départ.
Je précise que Johnny n'était pas d'ailleurs dans le clip de Kanye West. Hein.
Voilà, dommage.
Il y a des fusions qui ne se font pas. Effectivement, cette résilience, elle est un petit peu, on va dire, avalée, régurgitée, revendue, peut-être sous la forme d'une marchandise. Et le bonheur qui était au départ une quête pour essayer de trouver une façon d'être heureux devient une marchandise comme une autre à disposition sur étagère dont on va essayer d'enfourguer, de faire payer la facture.
C'est intéressant ce que tu dis, Antoine, parce qu'effectivement, la résilience et le bonheur, qui ne le souhaite pas finalement, ce n'est pas des mauvaises idées qui sont mauvaises en soi, mais ce qui devient un peu inquiétant, c'est vraiment que ça devient une nouvelle norme et une nouvelle injonction, et que finalement, si on n'aspire pas au bonheur et si on ne met pas tout en œuvre pour accéder à ce bonheur, c'est que finalement, on est quand même un peu dératé.
C'est ça, c'est-à-dire que le miracle d'un travail sur soi personnel, d'un chemin singulier, devient un impératif social et une norme. Et c'est ça qui est terrifiant.
Ouais, et ça, on le voit très très bien dans le film « À la poursuite du bonheur » avec Will Smith qui incarne complètement ce mythe du self-made. Donc Will Smith, dans ce film, n'a plus de fric, il est vraiment au bout du rouleau, il vient de se faire larguer par sa meuf, il est avec son fils tout seul, il dort dans la rue, il n'a plus un rond.
Sonia, mais quand on
mais
veut...
La positive attitude,
mais
on
oui, peut mais voilà. Faites et un effort.
Et bah, du coup, puisque c'est son rêve, et bah, son fucking American Dream, il va le réaliser et il dit à son fils à la fin « If you want something, you get it. »
Alors, il y a des choses qu'on guette aussi pas mal. C'est, j'aimerais bien qu'on parle un peu, qu'on essaie d'éclairer cette différence entre sérotonine et dopamine. Qui pourrait nous éclairer
On va faire un petit bingo.
Voilà, exactement.
Allez, alors, un petit bingo.
Ah, bingo pour expliquer.
Ah ben oui, attends, on va quand même... c'est un podcast d'autodéfense écologique, je rappelle.
Peut-être juste avant la définition.
Avant le bingo, donc la dopamine, c'est ce qui va provoquer un plaisir de court terme. En fait, c'est le circuit de la récompense. Tu vas manger plein plein de sucre, t'es trop content, t'as eu plein de sucre, ton corps il est à fond. Tu regardes sur Instagram, tu likes, on t'a liké, t'es trop content. Contrairement à la sérotonine qui provoque le bonheur.
Ouais. Et en fait, on voit que ça revient à une confusion dans notre société, c'est-à-dire qu'on confond souvent le bonheur avec le plaisir. Et d'ailleurs, on incite les gens à croire que leur bonheur passe par plein de petits plaisirs immédiats de court terme, notamment dans la consommation.
Ouais. Alors, on m'a parlé d'un bingo.
Alors, est-ce qu'on se lance ?
Ouais, c'est
pour vérifier que tout le monde a bien compris. Donc, si vous mangez un bonbon,
dopamine.
Bravo. Si vous avez un like sur Twitter,
dopamine.
Non, sérotonine. Attends.
C'est le bonheur.
Le bonheur absolu.
Si vous faites un gros câlin avec votre ami.
Sérotonine. Peut-être les deux, ouais.
Peut-être les deux.
Non, mais un câlin tendre. Si vous sniffez de la cocaïne,
dopamine.
Si vous écoutez 20 minutes avant la fin du monde,
sérotonine.
Plus vitamine.
Là, je pense que c'est éco-anxiété direct. Hein.
Alors, on va écouter quelqu'un qui, lui, justement, a des secrets à nous donner. Il en a fait son métier. Il est rémunéré pour ça. Prenez des notes. Ça va décoiffer. Ce monsieur est Chief Happiness Officer.
Le métier de Chief Happiness Officer, c'est quelqu'un qui va dire déjà, on va se réunir, on va former des groupes de travail et on va essayer de déterminer tous ensemble quelle serait pour vous la boîte idéale demain. Faire en sorte de créer des souvenirs. Alors ça peut être un baby-foot, le baby-foot on le voit partout aujourd'hui, mais ça peut être autre chose. Si on voit qu'on a des gens qui jouent de la musique, d'un instrument, déjà leur poser la question, c'est un peu la base. Et pourquoi pas organiser des concerts en interne. On peut créer un truc qui s'appelle le mur de la gratitude, le wall of gratitude, parce que c'est encore un truc américain, où on va, à chaque fois que quelqu'un nous fait plaisir dans la journée, lui mettre un petit post-it sur un mur en disant merci, c'est cool.
Very happy in this job.
Il y a des boîtes aussi en France qui ont adopté un système de congés illimités. Les gens partent en vacances quand ils veulent. Un mec à qui vous dites, mais mec, tu fais comme tu veux, hein. Tu fais comme tu veux, on va bosser sur des projets, et ben il va rester un peu plus longtemps, quoi. Moi, j'ai jamais vu de gens autant engagés que des gens qui avaient énormément de liberté.
J'espère que vous avez bien noté ces bons conseils. Est-ce que Dalibor, ça te semble convaincant, ces recettes du bonheur ?
Moi, je pense que le bonheur est fait d'un mélange savant de baby-foot, ouais, de hamac.
C'est ça ton secret pour être écrivain.
Et c'est ça, et de cocktail à gogo. Donc oui, effectivement, à partir du moment où on est dans une entreprise qui gagne plein d'argent en défiscalisant, ouais, et en culpabilisant ses employés, on peut leur faire une nouvelle injonction qui est non seulement il faut être rentable, non seulement il faut être photogénique, mais en plus il faut être heureux. Et si vous ne savez pas faire, on va vous expliquer comment faire. Parce qu'on fait aussi partie de l'image de l'entreprise.
Moi, je voulais juste préciser hein, quand même qu'il faut savoir que ce dont il parle, là, le fait de ne pas avoir de limite de congés payés, c'est le modèle de Netflix, hein, par exemple. Mmh. Chose qu'on ne sait pas, mais donc où on part en vacances quand on veut.
Ah ben, c'est bien, voilà. On part quand on veut, comme coup, ça, on ne part pas. Quoi. Donc,
et du coup, tu bosses, voilà, tu bosses pendant tes congés.
Voilà.
Non, mais c'est un peu ça, en fait. C'est surtout toutes ces grosses boîtes, hein, type voilà, Google, etc., on va dire... Tu vas voir, en fait, tu vas être tellement heureux sur ton lieu de travail. Genre, le matin, eh ben, en fait, tu auras tout le temps des viennoiseries gratuites pour toi.
Moi, j'aime bien ça, attends, les viennoiseries.
Mais il faut quand même faire du sport après parce qu'on ne veut pas des gens gros. Oh, hein.
Voilà, exactement, tu vas faire du sport. Et puis ensuite, ben, le soir, ah, si tu travailles un peu trop tard, ce n'est pas grave, on t'offre les sushis ce soir. Et donc, tu rentres dans un truc, en fait, où bah, tu peux être 24 heures au travail comme chez toi. Et donc, voilà. En plus, il y a un mélange vie privée-vie professionnelle qui est, je pense, assez malsain.
C'est assez intéressant ce que tu dis, Sarah, parce que c'est un vrai changement qu'il y a eu dans la perception du travail et dans l'imagination, enfin, dans la façon dont on imagine le travail, qui est passé d'une image de quelque chose de pénible, de laborieux, à quelque chose qui peut être une source de réalisation personnelle. Et c'est vrai qu'il y a une notion particulière qui existe aujourd'hui, qui est celle du capital humain, qui a été développée un peu dans les années 60.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
Le capital humain, ben, c'est comme le capital physique, en fait. Ouais, c'est que l'être humain a un capital qu'il faudrait développer, qu'il faudrait acquérir, préserver, comme par exemple en préservant sa santé, en venant travailler sur son image de soi et en fait en faisant de nous des capitaux humains qui sont indissociables de notre être, ben on devient nous-mêmes nos petites entreprises qu'il faudrait toujours, sur lesquelles il faudrait toujours investir et dans lesquelles il faudrait toujours investir. Et du coup, il y a vraiment cette idée que finalement on est enrôlé par nous-mêmes dans cette amélioration permanente de soi. Et, Et ce qui fait que, bah oui, on ne prend pas nos congés parce que si on se réalise par le travail, on se réalise soi-même. Et ça, c'est la magie du capitalisme.
Après, juste pour dire un mot, ça peut marcher pour certaines personnes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que peut-être que ça peut marcher, mais en fait, pour la plupart, c'est une illusion. Enfin, en
bon, je n'irai pas bosser dans l'entreprise. Sarah Gros, toi, Sonia, est-ce que tu es ta petite entreprise?
Je ne sais pas si je le suis, mais en tout cas, par rapport à ce que dit Zinab, on le voit très bien dans un documentaire d'Arte qui s'appelle Tous en forme et productif, qui est hyper flippant. Honnêtement, c'est une description de l'enfer. Donc c'est des salariés d'une entreprise allemande qui sont embarqués dans une espèce de concours par équipe où ils gagnent des points en faisant du sport. À un moment, ils voient une pauvre nana qui s'est foulée la cheville et qui est là en train de boitiller dans le hall de l'immeuble en disant
« Je
suis en train de faire perdre mon équipe, c'est affreux !»
L'enfer.
Donc vraiment, en fait, c'est vraiment ça engendre de la compétition, un énorme contrôle social, mais que les gens croient s'imposer eux-mêmes dans cette idée d'optimisation de soi, comme tu le disais, Zineb.
Ouais, et puis moi je crois surtout que ça entretient aussi un cercle vicieux parce que finalement, en fait, le travail est censé devenir le levier du bonheur quand en fait beaucoup de ces emplois contribuent aussi à aggraver les inégalités, à détruire l'environnement, finalement à créer aussi de nouvelles anxiétés et des anxiétés supplémentaires dont on parlait au début, notamment les anxiétés à propos de l'écologie qui existent et qui sont en fait, qui créent de nouvelles anxiétés censées se résoudre dans la quête du bonheur par les injonctions au travail, au sport, à être le meilleur soi-même. Il y a un peu toujours ce truc de be your best, best version, voilà. Et en fait, qui entretient ce cercle, qui est une quête éperdue vers plus de malheur finalement.
Qui est aussi très lié à tout ce qu'on appelle la santé connectée ou le self, le quantified self.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette santé connectée?
Alors la santé connectée, c'est que en permanence, là, en ce moment même, tu sais, il y a un logiciel qui a fait la totalité de ta tension, de ton stress,
C'est pas mal ça.
Alors, c'est très très bien, sauf que ça y est, c'est déjà vendu. De l'autre côté de la planète, c'est plus à toi.
Effectivement. Ça veut dire ces données finalement qui sont des données personnelles liées à notre santé, à notre forme. On peut s'interroger là-dessus quand on fait tout ça en entreprise. Effectivement, faire du sport dans son entreprise, si on voit que tu es essoufflé sur le tapis, est-ce que demain, finalement, ça ne rentrera pas en compte dans la prolongation de ton contrat, dans tes conditions de travail, Sonia ?
Non, ce que j'allais dire, c'est qu'on nous fait vraiment croire que le bonheur dépend de nous-mêmes, alors qu'en fait, c'est une affaire qui est profondément politique. On nous fait croire qu'on peut se construire individuellement, tout seul, dans sa petite bulle, créer son petit camp retranché de bonheur personnel, à coup de recettes de psychologie issues de la psychologie positive, en te répétant tous les matins « tout va bien, la vie est belle », et puis là, tout irait bien et la vie serait belle, alors que tout ça n'est qu'une affaire de politique et de structure sociale dans lesquelles on vit.
Oui, on le voit avec la crise du Covid. Regardez le télétravail, le téléenseignement. Ouais. On commence à avoir un petit discours qui dit que ce serait très, très bien pour les gens adaptés, les bons élèves, les bons étudiants, ceux qui sont en L3, ceux qui sont déjà en... Ouais. Par contre, pour les plus faibles, les plus défavorisés, il faut un petit peu de présentiel quand même. Mais les autres, il n'y a pas de problème. Ils peuvent rester chez eux face à leur écran. Ils sont adaptés, ils ont les ressources. Ils peuvent être heureux tout seuls.
Est-ce que tu es adapté, Sarah ?
Ouais, moi, parfaitement. J'adore le télétravail. J'adore les murs de mon studio. Franchement, ils sont tellement jolis. J'adore ne pas avoir de bureau, mais une chaise haute sur laquelle j'ai mal au dos. Non, mais en plus, je ne suis pas la plus malheureuse pour le coup. Non, mais c'est surtout que par rapport à tout ce qui a été dit là, c'est qu'en fait, ceux qui n'arrivent pas à être heureux, on va leur dire, en fait, c'est ta faute. En fait, les clés de ton bonheur, elles sont en toi.
C'est hyper culpabilisant.
Cherche un peu plus profondément. C'est que t'as pas assez fait. Enfin, fais plus pour toi. Alors que, non. Et déjà, tout le monde n'est pas égaux face aux choses. Et deuxièmement, c'est aussi accepter d'être parfois d'être moins bien, d'être triste. Et en fait, ça fait pas de toi une mauvaise personne ou une personne, quoi que ce soit. Juste, t'as le droit de passer par des phases aussi.
C'est ce qu'on appelle la psychologisation du bonheur. C'est vraiment effectivement, on parlait, Sonia, tu l'évoquais, de psychologie positive, le sentiment que, en fait, tu parlais de cette petite clé magique, secrète, qui serait au fond de nous. Il faudrait bien, bien creuser pour la trouver. Effectivement, c'est ça, le fait que la souffrance est une maladie. Et que, en fait, cette maladie, nous en sommes les seuls et uniques responsables.
Et forcément, c'est bien pratique justement pour les entreprises et le capitalisme et les politiques publiques aussi. Si on nous dit que finalement, la question du bonheur, c'est qu'une question qui est personnelle, qui est privée. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se battre pour avoir des meilleures conditions de travail, un meilleur système de santé, bref, un meilleur système éducatif, etc. Puisqu'il suffit finalement de travailler sur nous-mêmes, de continuer à capitaliser sur ce fameux capital personnel, ce capital humain, qui serait finalement la solution à tous et moins coûteux et moins perturbant pour les politiques que si on leur dit qu'il y a des choses à changer.
Ouais, et là, on voit que ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis le début dans 20 minutes sur, avant la fin du monde. C'est que bah, finalement, on a un peu le même discours sur l'écologie aujourd'hui, de dire que ce n'est pas un problème politique et global, mais un problème de responsabilité individuelle sur les petits gestes, etc. Enfin, donc on voit que cette philosophie, elle touche finalement tous les secteurs qui devraient concerner les politiques publiques aujourd'hui.
Oui, au fond, pourquoi agir contre le dérèglement climatique, tous les dérèglements environnementaux, puisque de toute façon, même dans les ruines du monde, on arrivera à trouver notre petite bulle de bonheur.
Voilà, j'espère bien.
Et comment on va la trouver, cette bulle de bonheur?
En te répétant tous les matins que ça va.
On a des idées, il paraît. Quoi.
En termes de bulle de bonheur, on a quelques idées, quelques pistes. C'est celle du bonheur artificiel, psychotrope et autres médicaments. Cette évasion, est-ce une évasion nécessaire ou une pure illusion? Je dis d'ailleurs psychotropes et autres médicaments. Enfin, il n'y a pas que des substances chimiques. Hein, le vin, la bière, enfin tout ça permet.
J'ai cru que t'allais dire il n'y a pas que des substances légales.
Effectivement. Alors, est-ce que finalement c'est une. On parle souvent de l'addiction des Français aux psychotropes. Est-ce que c'est un pur cliché lieu commun ou pas, Sarah?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup une grande campagne en disant les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes du monde.
Number one. Les premiers de cordée.
Un psychotrope. Ça veut dire vraiment c'est une substance qui va modifier ton activité psychologique et mentale. Donc ça peut être des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères. Et c'est vrai qu'un quart des Français en consommaient, l'enquête date de 2017. Mais en fait, sur ce quart de Français, il n'y en a que 11% qui sont des consommateurs réguliers et qui sont au régime général de l'assurance maladie, pour être précise, parce que les chiffres sont sur l'assurance, le régime général. Et des consommateurs réguliers, c'est 4 fois par an. Donc peut-être que c'est difficile vraiment de juger de ces chiffres.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est quand même inquiétant globalement de se dire que autant de monde a besoin de ces produits pour aller mieux, en tout cas même pas aller bien.
Oui,
aller
c'est
mieux.
Ça, c'est qu'en fait, en plus, ce n'est pas une clé du bonheur de
non,
prendre un anxiolytique. Voilà. Ça ne fait pas te sentir hyper bien d'un coup, quoi. En général, ça a plutôt tendance à effacer toutes les sensations possibles.
Et donc, il y a aussi alors, je parlais des drogues cette fois, on voit bien. On parlait tout à l'heure de dopamine, sérotonine. Il y a des drogues qui semblent être celles vraiment du flux. La cocaïne, c'est une drogue de l'intensité. La MDMA ou l'ecstasy.
Micro-LSD.
Ou le micro-LSD.
La drogue des créatifs.
Voilà. Et qu'est-ce que tu
et
peux
des
nous
financiers.
Dire sur le micro-LSD d'Alibor?
Le micro-LSD est devenu presque une consommation standard pour les créatifs de la Silicon Valley. Ça se commande sur Internet. C'est micro-dosé. Donc, il y a très peu d'effets secondaires. Et puis, on en tire, paraît-il. Je n'ai pas testé. On en tire pas.
Je suis déçue.
C'est ce qu'on dit dans un micro. Ouais, parce que tu sais que tes enfants t'écoutent. Hein. C'est ce que dit votre père, n'est pas vrai.
En ce moment, sous l'emprise du micro-LSD, oui, je jure.
Il paraît que ça permet d'être plus créatif et plus concentré.
Donc, en fait, on en revient toujours à cette histoire, Zineb.
Être plus productif.
Exactement. Être plus productif, même quand on prend des drogues. C'est pas merveilleux.
C'est effectif.
Après, il y en a quelques-unes de drogues où tu peux être moins productif. Tu as cité notamment la tout à l'heure.
Ah bon ?
Moi, je n'en sais rien, mais c'est quand même une libération de sérotonine et de dopamine très forte et qui te rendent très heureux et un peu flottant. Je tiendrai à avoir une réunion sur MDMA pour le futur projet Netflix. Je serais curieuse de voir ce que ça donne.
Oui, la présentation, la présentation PowerPoint sous MDMA, vous voyez, d'ailleurs, c'est en train d'agir sur moi à ce moment-là.
Que se passe-t-il, Antoine?
Est-ce que c'est Sarah qui me fait boire des trucs à chaque fois que je fais ces podcasts?
Mais est-ce que les plus grosses drogues, ce serait pas quand même la fameuse sérotonine dont on parle, non, la fameuse dopamine, dont on parlait au début, qu'on stimule pour le coup avec des drogues qui paraissent totalement inoffensives, à savoir les réseaux sociaux, le café, le sucre. Les souris sont d'ailleurs bien plus accros au sucre qu'à la cocaïne.
C'est vrai, ça.
Et en fait, le problème de la dopamine, c'est qu'en fait, elle va surstimuler nos neurones et en fait le neurone ou la neurone, je ne sais plus, trop stimulé finit par mourir, donc pour se défendre en fait il ne réagit plus à la dopamine et on doit se surstimuler encore plus pour avoir des réactions. Donc voilà.
Et ben on va continuer à se défendre. Vous aurez compris qu'il n'y aura pas à la fin de cet épisode nos 10 secrets pour être heureux ou nos meilleurs tutos pour kiffer toutes les déclinaisons administratives de la gestion d'un virus. Simplement le sentiment que le bonheur vaut mieux une promesse de rendement supplémentaire et qu'il y a bien des terrains à explorer en ce sens. On en parle au prochain épisode.
Oui, Antoine, à bientôt.
Merci.
Salut.
À vous.
Au revoir. Salut.